Histoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Aline et son B.
C'est en 2009 que l'auteur français Jean Guillemot décide avec sa femme Stéphanie d'aller à la découverte du Grand Nord canadien d'une manière bien particulière, en parcourant en canoë la rivière Nahanni, située dans la réserve du parc national Nahanni dans le sud-ouest des territoires du Nord-Ouest, près de Fort Simpson. Jean Guillemot en a tiré un documentaire, diffusé dans plusieurs pays, mais aussi un roman inspiré de son voyage et de ses découvertes. Aujourd'hui retourné en France, c'est depuis l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, qui nous en parle aujourd'hui. Parlez-nous de vous, d'où est-ce que vous venez et quel est votre parcours ?
Alors, d'où est-ce que je viens de la France métropolitaine, dans le sud de la France. Mon parcours, j'ai toujours été quelqu'un vivant dans des petits villages. Et puis, les études m'ont amené à faire des études d'océanographie et des sciences de l'environnement du côté de Marseille, où j'ai passé une bonne partie de mes études de là-bas, et notamment à essayer de faire en sorte que les calanques de Marseille, qui est un site absolument formidable au bord de mer, qui soient classés au niveau de parc national, et quand je suis parti, ben, ils l'ont classé. Donc voilà, au niveau de mes formations, c'est ça. Donc je n'ai rien à voir avec l'écriture, rien à voir avec le voyage ou l'esprit d'aventure, mais j'avais tendance à. Je voyageais beaucoup avec mes parents, donc ça m'avait donné un petit peu le virus du voyage.
Et là, on se parle, vous êtes sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. C'est vraiment à l'extrême opposé du nord du Canada où nous sommes aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à un endroit aussi éloigné finalement?
Alors, il y a eu plusieurs étapes, hein. C'est vrai que j'étais amené à travailler justement après l'aventure canadienne, où j'ai failli demander mon visa permanent. Et j'ai rencontré une femme qui est devenue ma femme d'ailleurs aujourd'hui. Et qui voyageait beaucoup un peu partout dans le monde, ça. Et j'ai dit, bon, bah, écoute, moi, voilà, je suis libre, je te suis, etc. Et je lui avais proposé, écoute, moi, on me propose un poste à La Réunion, sur une île qui est pas loin de Madagascar, juste en dessous de l'île de Maurice. Et pour un poste de professeur en SVT, en sciences de la vie et de la Terre, ben, j'ai débarqué là. Donc j'ai fait 2 ans, 3 ans dans l'éducation nationale française, en travaillant avec des lycéens, des collégiens, etc. Et à la fin, mon contrat se terminait. Et ma femme me dit, écoute, j'ai eu un rêve. J'ai toujours rêvé de faire 2 aventures dans ma vie. Et je fais la première, c'est de partir sur les traces d'un ancêtre éloigné, hein, nom direct, Évariste Huc. Et en fait, c'est le premier Français à être rentré à Lhasa au 19e siècle, bien avant Przewalski, etc.
Vous êtes allé sur les traces de vos ancêtres, mais ça vous a amené à rencontrer les autres finalement, parce que vous êtes aussi intéressé aux
Exactement.
aînés. Comment s'est passée cette rencontre?
Ben, je dirais, quand on a déjà une formation universitaire ou même scientifique ou autre, n'importe, on est curieux dans l'âme. Donc, quand on voyage, on n'a pas envie simplement de faire un simple voyage pour voyager, on a envie qu'il devienne un parcours, et un parcours initiatique, et d'apprentissage, d'ouverture. J'ai toujours, c'est ce que j'apprends encore à mes enfants aujourd'hui, soyez toujours ouverts, écoute, à l'écoute, laissez-vous imprégner des endroits, allez vers les gens qui vous racontent des histoires, et c'est de cette façon-là qu'on voyage. Donc, quand je suis tombé dans cette région, dans ce creuset, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient d'histoires, qui avaient envie, qui étaient passionnés de raconter des histoires, ben, du coup, j'étais comme une éponge. En revenant de ça, j'ai fait un film documentaire qui a été primé dans différents festivals, projeté dans différents festivals, un film d'aventure. J'avais fait aussi des photos, etc., plein de choses. Et ça, en fait, ça a lancé ma carrière, ce qui a un rapport, on va dire, avec la photographie et vidéaste. Et en arrivant, en revenant de ce trajet, donc c'était en 2006, ma femme, quelques années, on se réinstalle à La Réunion. On essaie de digérer cette aventure qui a duré 6 mois. Et elle me dit, bah, écoute, j'ai un autre projet. Et je fais, comment ça, un autre projet, ça ne te suffit pas? Elle dit, oui, j'ai 2 rêves dans ma vie, j'ai ça, et je veux découvrir la Nahanni. Et c'est là qu'on revient du coup sur le sujet même. Et Lana a dit, ok, mais je ne connaissais pas du tout, je ne sais même pas où c'était. Elle m'a dit, c'est au Canada, c'est une rivière et tout. Je fais, oui, bah, écoute, canoë, on n'en a jamais fait, pourquoi pas, on peut essayer. Et je dis, pourquoi Lana a dit? Parce que quand elle était petite, elle avait un livre de chevet qui était écrit par Roger Friedland-Roche, un célèbre romancier français des années 70, et qui avait écrit, par exemple, un roman qui est très connu, qui s'appelle Premier de Cordée. Et il avait entendu parler de cette région, de Fort Simpson, qui est pas loin de chez vous, et de cette rivière énigmatique. Il est allé, il a débarqué à Fort Simpson, et puis on lui a dit, oui, il y a cette rivière, mais n'y allez pas, il y a beaucoup de légendes, il y a des gens, il y a eu des morts, c'est une rivière, c'est une mangeuse d'hommes. Et il a découvert cette chute, et il est tombé complètement, on va dire, amoureux de cette rivière. Donc ça l'a vraiment. Donc du coup, ma femme dit, on y va. Et je lui dis, écoute, on va s'organiser et on va voir nous aussi qu'est-ce que c'est que cette rivière.
Et en fait, vous avez donc tourné un documentaire où on a des images de ce que vous décrivez, mais comment en êtes arrivé au roman?
Pourquoi, après avoir fait un film, faire un livre? En fait, quand je suis revenu, j'ai monté ce film qui m'a pris un petit bout de temps, hein, presque un an pour le monter, pour le parfaire. Déroché aussi toutes les interviews que j'avais faites sur place, notamment Nick Sebiston, qui était le sénateur, qui est peut-être toujours, je ne sais plus, c'était il y a quand même plus de 15 ans, sénateur des Dénés. Il y avait Nick Sebiston, il y avait Edwin Lindbergh, il y avait pas mal de personnalités et qui me racontaient des histoires sur la Nahanni. Des légendes, plusieurs légendes, et qui étaient assez fascinantes, et qu'on ne pouvait pas retransmettre ça dans le film. À la fin du film, je l'ai fait, il est passé à la télé, dans les festivals, etc. Et je me suis retrouvé un peu déprimé à la fin, en me disant, mais je ne peux pas m'arrêter là. Il y avait comme une espèce de magie, je me suis mis face à mon écran, et j'ai commencé, je dis, mais pourquoi j'écris pas? Et en s'inspirant de la légende d'Énée, de la jeune femme qui est tombée au niveau des chutes, etc. Et je me suis pris au jeu.
Quel bilan est-ce que vous faites de toute cette aventure aujourd'hui, 17 ans après?
Le bilan? Ah ben, ça continue à vivre, parce que comme le roman, là, je viens à peine de le sortir. Il faut savoir que là, la version française était déjà disponible en Europe. Là, je viens de terminer la version anglaise avec la traduction pour distribuer au Canada, etc. Donc, c'est disponible vraiment dans la semaine. Donc, du coup, là, du coup, je me suis replongé dans cette histoire et je poursuis. Donc, après la prochaine aventure, je sais pas. Je ne sais pas ce que la prochaine aventure, mais dès qu'on a des enfants, c'est différent. Disons que j'amène mes enfants sur la route, je fais beaucoup de vélo, beaucoup de canoë avec eux, beaucoup de randonnées, beaucoup de. Voilà, essaye de leur transmettre un peu ce virus-là. Ce livre est un peu particulier aussi. Ce livre est un peu particulier, il ne faut pas que j'oublie ça, c'est qu'il comporte des cartes, des photos. Et il est un peu particulier parce que on a voulu intégrer dans les dialogues du langage d'Énée. Donc beaucoup de termes qui sont dans le dialogue sont des termes réels d'Énée et qui font un rapport avec le lexique. Donc au début, il y a une petite gymnastique. Il faut aller voir ce lexique pour se rappeler quel mot dit Gaï comme le loup ou CDA comme la sœur. C'est beaucoup de termes d'aînés. Et aussi, comme je suis un peu scientifique dans l'âme, toujours, il y a un glossaire scientifique de toutes les espèces sur place. Donc c'est très complet. Et ce qui est très bien, c'est que quand on achète le livre, je fournis aussi le lien pour visionner le documentaire avec. Donc un lien infini, hein, on peut voir le documentaire, et un lien aussi vers une galerie Flickr avec les photos de l'expédition. Donc on va dire c'est un packaging,
Wow.
si je m'exprime bien. Donc il y a toute cette terminologie d'aîné qu'on retrouve en inspirant, franchement, en inspirant, hein. Je ne dis pas que c'est tel quel ou c'est. Je pense que c'est pour ça que quand j'avais contacté des personnes au niveau de Nanny But en leur disant très respectueusement que mon livre était sorti et c'était sur leurs histoires. Dans un sens, j'avais presque honte, c'est-à-dire c'était pas une appropriation de leur histoire. C'est eux les garants, les porteurs. Moi, c'était simplement un outil que j'ai utilisé et j'avais vraiment envie que ça soit le plus proche possible, pas faire de bêtises pour leur manquer de respect.
Est-ce que vous reviendrez un jour et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous allez découvrir en revenant, si jamais vous revenez?
Mais je serais curieux de savoir comment a évolué la Nanny et son entourage Fort Simpson au niveau du peuple d'aînés. Est-ce que je me souviens qu'à l'époque, ça avait quand même des combats, pas des combats ni des batailles, simplement, c'est toujours difficile hein, de faire. On a le problème à La Réunion, c'est que les nouvelles générations ont tendance à oublier d'où ils viennent et finalement, on passe à des choses plus faciles, le Facebook, les ordinateurs, etc. Et on en oublie d'où on vient. Et j'ai peur que cette tradition orale soit perdue. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'aînés, les jeunes locaux, ben, est-ce qu'ils se souviennent de toutes ces histoires que toutes les personnes me racontaient spontanément? Est-ce qu'eux-mêmes continuent à raconter ces histoires? Est-ce qu'il a perduré? Est-ce que. Voilà, c'est toutes ces questions-là.
Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.